La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour à tous et bonne arrivée au Cameroun où c'est bien connu, celui qui a vu la montagne n'a plus peur de la colline. Un proverbe qui sied à merveille à notre Belge du bout du monde, Marc Langui, passé du Mont Saint-Aubert au parc national des Virunga dans l'Afrique des Grands Lacs, avant d'aller crapahuter au Cameroun où nous l'appelons ce dimanche matin. Bonjour Marc.
Bonjour tout le monde.
Où êtes-vous précisément Marc?
Alors, je suis à Yaoundé, dans nos bureaux, le bureau du WWF, dans le quartier de Bastos, donc Yaoundé, la capitale du Cameroun.
C'est bien, on peut commencer, les Tournaisiens sont là, hein. C'est comme ça qu'on disait quand vous étiez gamin, le long de l'Escaut. Depuis, vous avez pas mal bourlingué et nous allons survoler avec vous plus d'un quart de siècle de voyage du Zimbabwe au Congo en passant par le Kenya et le Cameroun. Le Cameroun, pays natal de notre invité en studio, Berthe Tanuo Njolé. Bonjour Berthe.
Bonjour Adrien. Bonjour Marc.
Bonjour Berthe.
Alors Marc, Berthe est arrivée en Belgique lorsque vous avez débarqué sur le continent africain à peu près.
Ouais, voilà, on s'est croisés, c'est dommage. Mais bon, c'est parti pour mille, je suis sûr.
Ah, vous avez loupé quelque chose. Hein. Et vous avez passé chacun autant de temps dans le continent de l'autre. Hein. Vous, 25 ans d'Afrique, Marc. Et vous, quasiment 25 ans de Belgique, Berthe.
C'est exact. Là, j'en suis à la 26e année maintenant.
Mm-hmm. Alors, on a un naturaliste au bout du fil. Et vous, vous êtes...
Moi, je suis chanteuse, comédienne et présentatrice.
Je fais semblant de ne pas le savoir, mais je vous connais bien. Je vous connais parce que je vous ai emmené... au Cameroun l'an dernier, c'était un retour aux sources pour vous. Hein.
Tout à fait, après 25 ans d'absence, ça a été vraiment une redécouverte de mon pays natal.
Que vous avez eu la chance de faire en compagnie d'un certain Pascal Claude. Bonjour Pascal.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Je crois que ce voyage vous a marqué.
C'est vrai, c'était ma première fois avec l'Afrique et ma première fois avec le Cameroun. Et forcément, ça reste inoubliable.
Vous allez nous en parler, vous allez aussi nous présenter tout à l'heure ce pays que l'on décrit comme l'Afrique en miniature. Avec nous également, Mariam Allard, qui pointera une initiative originale, Mariam.
Oui, je vais vous parler de l'initiative de l'association Cœur de Forêt, qui a décidé de préserver un arbre en utilisant son beurre.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Avant de vous présenter plus amplement Marc Langui, nous allons planter le décor avec vous, Pascal Claude. Mmh. Vous en souvenez précisément parce que c'était votre baptême de l'air. Le Cameroun est à 8 heures d'avion de Bruxelles.
Et nous sommes au cœur du continent africain. Le Cameroun est situé en Afrique centrale. Le pays a une superficie proche de celle de la France et il est entouré du Nigeria à l'ouest, du Tchad au nord, de la République centrafricaine à l'est, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville au sud. Le Cameroun s'étend en bord d'océan Atlantique avec ses 400 km de côte, 400 km de côte et de longues plages de sable fin. C'est une partie du pays fort prisée d'ailleurs par les touristes avec des villes comme Kribi et Limbé. Mais à côté de la mer, n'oublions pas le mont Cameroun et son sommet à 4070 mètres d'altitude. C'est une autre attraction touristique du pays. Entre mer et montagne, sans oublier les champs de thé et les parties presque désertiques du nord, eh bien le Cameroun est considéré comme un concentré du continent africain, vous l'avez dit Adrien, l'Afrique en miniature. La plupart des Camerounais parlent français, environ 80% de la population. L'anglais est la langue de 2 Camerounais sur 10. Il faut dire aussi que les 20 millions d'habitants sont répartis en plus de 240 ethnies et que chaque ethnie possède sa propre langue. L'histoire du Cameroun en quelques mots. À présent, le pays a été une colonie allemande. Après la Première Guerre mondiale, le territoire est placé sous la tutelle de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Et il a alors été coupé en deux et confié à l'administration de la France pour ce qui est de la partie est du pays et du Royaume-Uni pour l'ouest. C'est donc pour cette raison qu'on y parle encore anglais aujourd'hui. C'est en 1960 que l'ancien territoire sous administration française accède à l'indépendance sous le nom de République du Cameroun. Et c'est un peu plus tard, près de 2 ans plus tard, qu'il est rejoint par une partie du territoire sous administration britannique. Bref, ici aussi, c'est la colonisation européenne qui a dessiné les frontières actuelles de ce pays africain, qui est le Cameroun, Adrien.
C'est vrai, dans quel monde on vit. Merci Pascal d'avoir pointé du bout du doigt le bout du monde avec Marc Langui qui est sur place. Un pays très attachant, hein, le Cameroun. Marc, la preuve, c'est votre deuxième séjour là-bas.
Je suis venu au Cameroun de 1998 à 2001. Et ensuite, bon, j'y suis revenu il y a un peu plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi, sans hésitation. C'est vraiment un pays attachant. Je pense que le résumé qui en a été fait là tout de suite est vraiment parlant. C'est vraiment l'Afrique en miniature, pas seulement d'un point de vue géographique, mais aussi culturel, culinaire, musical. Il y a de tout. Il y a à boire et à manger au Cameroun. Et je pense que c'est un pays très, très agréable à vivre.
Oui, un pays dans lequel Berthe est retournée. On parlait des ethnies avec Pascal Claude. La vôtre, Berthe ?
Alors moi, je viens de l'ouest du Cameroun. Ma maman vient de Baganté. Nous sommes des Bamilékés. Et on parle le Baganté, tout simplement.
Et ici, vous êtes attaché à l'ethnie bruxelloise ou vivez dans quel coin ?
Moi, je me considère d'abord et avant tout comme une citoyenne du monde. Le fait d'avoir la chance d'avoir une double culture, aussi bien africaine qu'européenne, belge dans ce cas-ci. Je me sens belge, tout simplement.
Avec des racines africaines.
Exactement.
Que vous les allez arroser avec nous. Alors, vous avez, Marc Langui, 2 expériences au Cameroun. 98-2001 pour BirdLife. Depuis 2012, le WWF. On devine la passion en commun pour la nature. Ce sont vos études en zoologie, en biologie aussi, qui vous ont poussé à faire ce travail.
Oui, ça remonte même un peu plus loin, puisqu'avant mes études en biologie, en effet, j'ai commencé à être passionné de la nature dans mon ESCO natal, hein, dans le Tournaisie, où je crapahutais, ou plutôt j'allais à vélo, le long des berges, observer les oiseaux, la nature, donc ça a commencé très tôt. Donc c'est assez naturellement que je me suis orienté vers la biologie, la zoologie plus particulièrement, et de là l'environnement en sens large, hein, pas uniquement la conservation des espèces ou des aires protégées, mais l'environnement en sens large, qui est bien sûr un point important dans le monde actuel. Je pense que c'est une problématique essentielle qui est vraie en Europe, mais tout à fait réelle en Afrique également.
Alors, vous êtes au pays des lions indomptables, mais je crois qu'il en reste peu.
Il en reste encore un peu dans le nord, hein, dans le nord du pays, dans la zone de savane, dans le parc national de Faro, un peu à Ouaza. C'est un combat à mener, c'est un symbole aussi, hein, le lion indomptable, hein, comme tu l'as dit, c'est vraiment un symbole ici au Cameroun, très fort. On fait tout pour que le lion ne disparaisse pas du Cameroun et que ça puisse aussi continuer à être un objectif pour le tourisme au Cameroun également. Saga Africa, attention les secours. Yannick Noah pour Yadio Cameroun avec les lions indomptables. Nous connons des gages, suppositoire de l'attaque adverse.
Peu de lions, mais encore beaucoup d'éléphants, d'hippopotames, de girafes dans ce pays, dans cette étonnante mosaïque camerounaise, Marc Langui.
Oui, bon, beaucoup d'espèces de savane, mais je pense qu'il est encore plus important, peut-être qu'on connaît un peu moins, c'est bien sûr la grande forêt du sud Cameroun, la forêt dense, humide, tropicale, qui fait partie du bassin du Congo. On trouve beaucoup de grands singes, comme les chimpanzés, les gorilles des plaines, qui sont parmi les plus proches cousins, comme on dit, de l'homme. Et bien sûr, un stock de carbone, un réservoir d'eau énorme pour le tourisme, pour les visiteurs. Mais je pense que la grande forêt du Cameroun, du sud Cameroun, est vraiment quelque chose d'unique et ce qui m'y attire également.
Une forêt que vous avez traversée tous les deux, Berthe et Pascal Claude, quel souvenir vous gardez de cette immersion dans la forêt tropicale ?
Moi, j'en garde un souvenir qui va rester, je pense, toute ma vie, de découvrir mon pays, de découvrir surtout cette nature luxuriante. Et une fois qu'on sort de la capitale Yaoundé, il n'y a pas de mots, en fait. On est juste impressionné par la diversité, en fait, qu'on y retrouve.
C'est vrai, c'est la savane, la forêt, les sommets volcaniques, les plantations de thé, les plaines arides, les plages paradisiaques. Et puis le Grand Nord, vous êtes allé jusqu'à Ngaoundéré en train, Pascal Claude.
Ah, ce voyage en train complètement inoubliable et à l'encontre des préjugés. On s'attendait à ce que le train ne soit pas à l'heure, à attendre des heures et des heures avant de réellement arriver sur place. Et finalement, c'est encore parfois même mieux qu'en Belgique.
C'est vrai,
c'est vrai, il faut l'avouer.
C'est vrai, beaucoup plus à l'heure que les trains de la SNCB. Marc Langui, c'est vrai, il y a une certaine organisation quand même au Cameroun. Hein.
C'est vrai pour le train, mais je pense que le train a bénéficié des mauvais services de la compagnie nationale aérienne ici. Beaucoup de gens se rabattent de plus en plus vers le train. C'est une bonne chose, c'est ponctuel, c'est sûr, c'est aussi plus écologique.
Ah voilà, en prélude à la conférence mondiale sur le climat, parole de sage, parole de Marc Languy, qui travaille pour le WWF au Cameroun. On vous retrouvera, Marc, après une petite respiration musicale. Et laquelle, dites donc? Voici Manu Dibango sur la première.
Vous aussi, vous connaissez des Belges du bout du monde? Livrez-nous vos bons plans et vos contacts sur Twitter via le hashtag BBDMRTBF.
Manu Dibango, chez lui, dans les Belges du bout du monde, sur la première, avec aussi Berthe Tanwanjolé, artiste belgo-camerounaise résidente à Bruxelles, et Marc Languy, directeur du WWF au Cameroun.
Les Belges du bout du monde, sur la première.
Avant de revenir sur l'incroyable parcours de Marc Languy en Afrique depuis 25 ans, zoomons sur la situation économique et politique du pays dans lequel il se trouve pour l'instant, le Cameroun. Vous le disiez, Pascal, 240 ethnies, et puis une situation politique et économique très très difficile.
Bah, en tout cas, d'abord un chiffre, la moyenne d'âge du gouvernement camerounais est de 77 ans. Le président s'appelle Paul Biya, il a lui 82 ans et il est à la tête du pays depuis le 6 novembre 1982. Faites les comptes, ça fera bientôt 33 ans. Le Cameroun est une démocratie de façade. Certes, il y a des élections, certes, il y a d'autres candidats que Biya, mais les scrutins sont truqués et les candidats muselés. Et il faut dire que la politique est un sujet tabou sur place. Pendant notre séjour, à plusieurs reprises, j'ai sondé des Camerounais et pratiquement à chaque fois, on évitait le sujet. Je me souviens en avoir parlé à table avec un journaliste de la radio publique camerounaise qui m'a répondu par cette question. Il est bon le riz, vous ne trouvez pas? Voilà, ça donne une idée de la liberté de presse sur place. Et quand rarement les langues se délient, les Camerounais avouent avec colère qu'ils n'espèrent qu'une seule chose, le départ de Paul Biya. Et ce qui occupe beaucoup le Cameroun en ce moment, c'est toujours la lutte contre les islamistes nigérians de Boko Haram. C'est dans le nord du pays que ça se passe. Il y a quelques jours encore, Boko Haram était même parvenu à prendre le contrôle d'une ville. Mais l'armée camerounaise est finalement parvenue à chasser les islamistes. Et ce qui est très clair, c'est que face aux critiques, le gouvernement camerounais se défend en utilisant cette crise liée à Boko Haram, en disant qu'il parvient malgré tout à assurer la sécurité dans le pays et à protéger son peuple. Pour ce qui est des aspects économiques, je ne vais pas être très long. Je vous livre juste les chiffres du programme des Nations Unies pour le développement. Ça va vous donner une idée du niveau de vie dans le pays. En 2012, le PNUD classe le Cameroun au 152e rang au niveau mondial sur 186 pays. Bien sûr, c'est une moyenne entre le niveau de vie de ceux qui errent dans la rue et celui de la famille de Yannick Noah. Il y a de la marge et nous avons pu nous en rendre compte sur place, Adrien.
C'est vrai. Et on vous a mis d'ailleurs en ligne la vidéo, le reportage réalisé lors de ce Ravel du bout du monde au Cameroun. Le Cameroun par lequel vous êtes passé à deux reprises, hein, Marc Languy, fin des années 90. Et puis vous êtes de retour là depuis 2012. Vous vous sentez en sécurité? Vous vous sentez bien sur place?
Oui, tout à fait. Hein. Surtout à Yaoundé ou à Douala, dans le sud du pays. C'est sûr qu'on suit de près les événements, je veux dire, malheureux liés à Boko Haram, mais d'une manière générale, le sud du pays, on se sent très sûr. Les gens ont été choqués, bien sûr, pour les attentats dans le nord, à Maroua. On en parle, mais il n'y a pas un sentiment d'insécurité, pas du tout.
Il faut dire que vous êtes passé par des pays où la situation était autrement tendue, entre autres au Rwanda, au début des années 90, 93, 94.
Oui, j'étais là lors du génocide, à la frontière, hein, j'étais vraiment à 100 mètres de la frontière, donc j'ai eu des choses que j'aurais aimé ne pas voir. Bon, ça fait partie de la vie, on apprend, c'est aussi la réalité. Heureusement, ce n'est pas toute la réalité de l'Afrique, mais c'est sûr que j'ai dû passer par des moments beaucoup plus difficiles. Donc, je suis bien content d'être au Cameroun, un pays quand même très stable.
Lors de votre carrière à l'étranger depuis plus d'un quart de siècle maintenant, vous avez été victime aussi d'attaques à main armée à plusieurs reprises.
Oui, ça fait malheureusement, je vais presque dire, partie du métier. On aimerait bien éviter ce genre de choses, mais bon, le métier fait qu'on est quand même obligé d'aller dans des zones relativement reculées, peu contrôlées par les armées régulières ou l'État d'une manière générale. heureusement, avec un peu de diplomatie, avec en gardant son calme, on s'en sort. Je pense que fondamentalement, en Afrique, les gens sont avant tout des amoureux de la vie, et si on parvient à lier les liens qu'il faut lier, on s'en sort toujours. Il y a toujours une sortie. C'est un peu l'expérience que j'ai. Il y a toujours une sortie heureuse à toute situation en Afrique.
Dans le livre « Les Belges du bout du monde » rédigé par Frédéric Thiébaud, vous écrivez que vivre en Afrique est une leçon de vie quotidienne. Vous mettez en avant le courage des populations locales, leur entrain et leur combat.
Oui, c'est sûr que l'Afrique, pour l'instant, a un taux de croissance économique très élevé. Le Cameroun, la RDC n'y échappe pas, hein, à 6, 7, 10% par an. Mais on vient de loin et c'est une croissance quand même assez inégale. Donc beaucoup de populations sont un peu livrées à elles-mêmes et donc n'attendent plus grand-chose de l'État et s'organisent elles-mêmes, s'organisent en communauté, font des projets de communauté de différents aspects sociaux, environnementaux, politiques, s'organisent en ONG, en association, font des poutines, développent des formes de solidarité qu'on ne voit pas aussi souvent en Europe. Et je pense que c'est une réalité, c'est un réalisme, mais ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Je suis très admiratif vis-à-vis des populations locales ici.
Article 15, hein, en toutes circonstances, débrouillez-vous, disait-on à l'époque au Congo belge. Et finalement, les choses n'ont malheureusement pas beaucoup changé. Quand vous entendez Berthe, Marc Languy, qui est dans votre pays, qui parle des Camerounais avec autant de ferveur, qu'en pensez-vous ?
Eh bien, je suis du même avis que Marc, parce que lors de mon séjour, j'ai vraiment été impressionnée par leur volonté de s'en sortir malgré la situation. Et je les trouve extrêmement courageux. Et je pense qu'il devrait y avoir des stages pour les Européens de faire des échanges comme ça entre l'Afrique et l'Europe, que les populations européennes aillent en Afrique et inversement, pour se rendre compte en fait que sur place, malgré les difficultés, eh bien, je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre.
Ceci dit, ces échanges du nord au sud, du sud au nord, ça se fait à petite échelle. On accueille des stagiaires, on envoie des Africains en formation en Europe. Bon, ce sont des petites gouttes d'eau dans l'océan, mais on dit que les petites rivières font les petits torrents plutôt font les grandes rivières. Donc, c'est une manière pour participer, selon moi, à faire ce trait d'union entre le nord et le sud.
Et c'est important. Alors, trait d'union, justement, entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. On va vous écouter en duo, Berthe, pendant votre voyage au Cameroun. Vous avez fait la connaissance d'une Américaine.
Effectivement, on est parti avec B.J. Scott, qui est une artiste, une femme assez incroyable, très ouverte. Et c'est vrai que via son expérience, quand elle parlait des États-Unis, d'où elle vient, du sud de l'Alabama et le Cameroun, il y avait pas mal de choses en commun. Et c'est vrai qu'on a eu la possibilité, comme ça, pendant tout le séjour, de pouvoir chanter ensemble des chansons qu'elle m'a apprises et des chansons que l'on connaît en commun.
Let a good job in a city, working for a man every night and day, and I never lost 1 minute of sleeping, worried by the way that things might have been. We will keep on turning, proud Mary keep on burning, and we rolling, 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 yeah, yeah.
On the river, on parlait des rivières, mais ça tombe bien.
Exactement.
B.J. Scott qui est allé avec vous, berceau du blues, hein, toute la musique qu'on aime, elle vient de là, elle vient du blues, elle vient de chez vous, elle vient du Cameroun.
Elle vient de l'Afrique, effectivement, il y a beaucoup de rythmiques qui sont à la base du blues, de la soul, du jazz, tout simplement parce que c'est le chant des esclaves, ce qu'on appelait à l'époque les work songs et les sorrow songs par rapport à leur situation. Les work songs, les chants du travail pour se donner du courage, et les sorrow songs, les chants de la peine, qui étaient vraiment des chants pour essayer de... Parce que simplement, la langue, le culte, la religion étaient interdits. Il fallait trouver une autre façon de s'en sortir.
Les Belges du bout du monde au Cameroun, vous l'avez compris. On y retourne juste après la pub. A tout de suite.
9h-10h.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Avec Adrien Jouvenot.
Bon dimanche sur la première à 10h, ce sera Cédric Wautier, tiens, les vacances de Toussaint, hein, qui remplace Alain Gerlache pour sa bande de Décodeurs. Mais avant cela, les Belges du bout du monde avec deux gars, deux filles, hein, Berthe, Mariam, Pascal, Marc. Berthe Tanwunjole qui est artiste belgo-camerounaise, Mariam Allard, lauréate de la Belge Odyssée, Pascal Claude, journaliste dans Quel monde on vit, et Marc Languy qui est justement au bout du monde, au Cameroun, où il travaille pour le WWF.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Marc Languy avec nous au Cameroun. Est-ce qu'on peut en deux secondes, Marc, pour ceux qui prennent l'antenne maintenant, rappeler votre travail et ce que c'est le WWF ?
Ah ben le WWF en français, c'est le Fonds mondial pour la nature. C'est mieux connu par le petit panda que oui. Tout le monde connaît. Et bon, mon boulot, je suis en fait directeur pour le WWF en Afrique centrale. Je couvre tout le bassin du Congo, donc le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine et les deux Congos. Bref, les pays les plus faciles d'une certaine manière, mais les plus importants d'un point de vue environnemental. Donc je suis en charge de la supervision de tous nos programmes dans ces cinq pays-là.
Et je signe le passage que vous avez parcouru 18 pays différents d'Afrique. On en reparlera après la chronique de Mariam Allard. Mariam qui met le doigt sur une initiative, un projet porteur d'espoir et de changement positif. Au Cameroun, une initiative positive a retenu votre attention, Mariam, c'est celle de l'association Cœur de Forêt.
Oui, Adrien, cette association a décidé de fabriquer des produits cosmétiques pour préserver un arbre menacé d'extinction. Cet arbre, c'est le Moabi, il est immense, il peut atteindre jusqu'à 70 mètres de hauteur. C'est l'un des arbres les plus grands qui poussent dans les forêts tropicales humides. Cœur de Forêt voulait donc protéger cet arbre grandissime tout en faisant participer les Camerounais.
Alors, il faudra que vous m'expliquiez comment on peut fabriquer des cosmétiques à partir d'un arbre.
Eh bien, l'association a proposé aux habitants du village Logumbon, excusez ma prononciation, de créer une coopérative. Cette coopérative est chargée de récolter les graines de Moabi pour ensuite en extraire le beurre. A priori, les graines sont très toxiques, mais une fois séchées, bouillies et pressées, elles donnent une huile riche. Le beurre qui en est tiré est d'ailleurs proche du beurre de karité, qui est déjà beaucoup utilisé en cosmétique.
Et créer du beurre à partir de cet arbre permettrait de le préserver ?
Oui, tout d'abord, il faut préciser que le beurre est produit sans endommager l'arbre, vu qu'on utilise les graines. Autre aspect positif, l'arbre est maintenant indispensable à la fabrication des produits cosmétiques. Ils ne peuvent donc s'en passer. La commercialisation du beurre est source de revenus, aspect important pour les habitants du village.
Et Mariam, c'est aussi une réelle campagne pour le développement durable, j'imagine.
Exactement. L'association forme les membres de la coopérative. Elle leur apprend l'agroforesterie tropicale. Des milliers d'arbres ont été plantés. C'est un vrai boost pour l'économie du village. L'idée à plus long terme est de développer de nouveaux marchés ainsi que l'autosuffisance de la région, mais aussi de lutter contre l'exode des jeunes vers les villes.
L'association Cœur de Forêt, avec ce projet présenté par Mariam Allard. Vous aviez déjà entendu parler de ce projet, Marc Languy ?
Non, malheureusement, mais je pense que c'est un projet très intéressant. Je pense qu'il repose sur l'idée, comme on dit en anglais, use it or lose it, c'est-à-dire utilisons les ressources naturelles, s'ils n'ont aucune valeur auprès des gens, elles disparaîtront. Donc je pense que cette initiative de faire le lien entre la valeur de la biodiversité et la valeur économique est un projet très intéressant. Et je crois que la prochaine fois que j'irai dans le sud-ouest du Cameroun, je ne manquerai pas de rendre visite à ce projet.
Voilà, je dirais ça, c'est comme dans un rêve. Moi, en fait, j'ai rêvé de mon pays et le fait de le revoir en live 25 ans plus tard, alors là, c'est, j'ai juste envie de dire merci.
Parce que parfois, quand on rêve quelque chose, quand on attend très fort, on est déçu quand on le voit.
Oui.
Ça n'a pas été le cas ?
Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Bah, disons que j'ai quitté le Cameroun quand même quand j'avais 7 ans. Donc, j'avais des souvenirs lointains et je m'étais fait comme ça une image du pays. Et là, j'arrive, je me dis, en fait, je ne découvre pas, mais je redécouvre ce pays avec ses capacités, avec ses paysages, avec sa culture. Et c'est ma culture. Et c'est ça qui fait du bien, c'est d'enfin arriver dans mon pays, de me dire, voilà les gens qui me ressemblent. J'adore vivre en Belgique, mais le fait de retourner, ça fait du bien de retourner, de dire, voilà d'où je viens.
Oui, c'est beau ce que vous dites. Bon pied la route, ça c'est un slogan qu'on dit souvent au Cameroun, oui. Un bon pied la route. Vous êtes un grand marcheur, vous, Pascal Claude. Vous avez fait l'Oxfam Trail, vous avez, c'est vrai, hein, l'habitude.
Oui, ça m'arrive.
D'explorer.
Je ne marche pas souvent 100 km d'affilée. Hein,
mais là, vous l'avez fait.
Oui, je l'ai fait, oui.
Et vous seriez tenté par ce genre de trip, de trek
J'avoue que quand je suis arrivé au pied du Mont Cameroun... J'avais envie d'aller plus haut.
Oui. 4000 mètres d'altitude, avec beaucoup de brume aussi au sommet. On ne s'attend pas à ça quand on va dans ces pays lointains. On rêve au Cameroun, les paysages, les cartes postales et tout. Mais là, on se retrouve carrément presque avec un paysage de gorille dans la brume. Mais c'est assez impressionnant.
Hein. Ouais, et en parlant de brume, ce qui était très impressionnant aussi, qui me reste en mémoire, c'est ces champs de thé avec la brume qui nageait au-dessus de ces champs. Ça, c'est une image très, très belle. J'imagine que vous en souvenez.
Oui, je m'en souviens très bien, effectivement. Non, j'ai vécu une expérience incroyable. 10 jours, c'est trop court.
On faisait allusion aux gorilles dans la brume. Vous les avez vus, vous les avez approchés de très près, parfois de trop près, Marc Languy. J'aimerais que vous nous racontiez ce sauvetage de jeunes gorilles dans l'Afrique des Grands Lacs.
Au secours d'un bébé gorille qui avait été pris dans un collet, donc un piège métallique, il avait réussi à se libérer, le brave petit, mais le fil métallique était resté sur sa main qui s'infectait. Donc on a dû intervenir. Après de longues heures de marche, on a retrouvé le groupe, on a isolé le petit, on l'a endormi avec un tranquillisant. On a retiré ce fil de métal qui était dans sa main, on a soigné. Et le brave s'est réveillé, bien sûr. Et comme tout bébé, quand il se réveille, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il cherche sa maman. Donc il a crié à sa manière, il a appelé au secours. Ce n'est pas sa maman qui est venue, mais le mâle argenté. C'est assez impressionnant, c'est quand même des bêtes de plus de 200 kilos qui a chargé, tout simplement, qui m'a chargé, qui s'est arrêté, comme tout bon gorille de montagne, d'ailleurs, à quelques décimètres de moi. Dans ces cas-là, on est très humble, un profil très bas, au sens propre et figuré, et en général, tout se passe bien.
Alors, le conseil, justement, c'est de s'enfouir, de prendre ses jambes à son cou, ou bien, au contraire, de rester immobile, Marc?
Surtout ne pas fuir. Il faut montrer que c'est lui le boss. Nous sommes des subalternes, donc il faut se coucher par terre, regarder par terre, être soumis. Et une fois qu'il voit que c'est jamais qu'un petit bout de chair minuscule par rapport à lui qui n'est pas menaçant, ben il vous laisse tranquille.
Vous avez compris, Pascal Claude. Ne pas bouger, rester par terre et pas faire le malin. Hein, ne pas faire de son stouf.
C'est pas mon genre.
Alors, vous pourriez reprendre les carnets du bourlingueur, Marc Languy. C'est vraiment passionnant de vous entendre. Vous avez beaucoup voyagé au cours de ces 25 dernières années. Vous êtes père de famille nombreuse. 4 enfants. Où sont nés vos enfants?
Ah, alors là, c'est un bon résumé de mon CV. J'ai une fille qui est née au Congo, un garçon en Belgique, un autre garçon au Gabon et la petite dernière au Cameroun.
4 enfants nés chacun dans des pays différents. Alors ça, c'est assez incroyable. Certains sont revenus en Belgique ou ils sont tous devenus belges du bout du monde?
Ah, 2 sont grands maintenant, 25 et 21 ans, donc sont en Belgique. Une à Bruxelles et un à Louvain-la-Neuve, que je salue s'ils m'écoutent. Et je suis encore avec, donc, bien sûr, mon épouse et 2 enfants. Mon épouse qui est elle-même africaine. Et donc c'est assez intéressant aussi de vivre cette aventure-là.
Vous l'avez rencontré dans quel pays? Parce que vous avez vécu dans 18 pays en Afrique.
Mon épouse est, comme on dit, rwando-congo-belge. Donc elle est initialement du Rwanda, sa famille est rwandaise.
Alors qu'est-ce qui vous a poussé à déployer vos ailes? Parce que vous avez grandi au bord d'un long fleuve tranquille, dans le Tournaisie, le long de l'Escaut. Vous avez commencé votre carrière au Marais d'Archy. Vous auriez pu vivre tranquillement là-bas en gérant le parc naturel des plaines de l'Escaut. Pourquoi êtes-vous parti si loin?
Je crois qu'on a qu'une seule planète. Elle est magnifique. Je pense que d'abord, ça vaut la peine de la visiter. Donc mon premier intérêt était de visiter des nouvelles contrées, des nouveaux habitats, des personnes de cultures différentes. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que sans doute je serais un peu plus utile en travaillant en Afrique centrale, en Afrique en général, que dans le Tournaisie. J'ai aucun problème et tout à fait du mérite à tous mes collègues et amis et familles qui travaillent en Belgique. Le problème n'est pas là. Simplement, je sentais que je pouvais peut-être amener un peu plus en Afrique centrale qu'en Belgique en offrant mon expertise et de fil en aiguille mon expérience, mes connaissances. J'espère pouvoir continuer à le faire encore longtemps. Je n'ai pas vraiment de projet à long terme de revenir en Belgique, peut-être beaucoup plus tard. Mais pour l'instant, je m'y sens très bien. J'ai un boulot que j'aime beaucoup. J'ai une famille qui s'y plaît. J'ai beaucoup d'amis ici. Donc, je suis très heureux là où je suis pour l'instant.
Pourvu que ça dure, c'est tout le bien que nous vous souhaitons, Marc Languy. On retourne chez vous après avoir écouté une enfant du pays, Carré Sotso, sur la première.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
C'était Caresse Fotso sur la première, les Belges du bout du monde. Dernière ligne droite, hein. Nous sommes au Cameroun avec Berthe Tanwanjolé qui est artiste belgo-camerounaise résidente à Bruxelles et Marc Langui, directeur du WWF à Yaoundé.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Marc Langui, vous êtes belge du bout du monde, vous travaillez pour le WWF, mais vous avez écrit également des livres, dont un avec le prince de Mérode, paru aux éditions Lanneau. Un livre que vous avez vendu, et que vous continuez à vendre d'ailleurs, au profit des veuves des 120 gardes qui ont perdu la vie en défendant entre autres les gorilles dans la brume, là-bas dans l'Afrique des Grands Lacs.
Oui, un livre qu'on a produit d'abord pour célébrer la beauté, la valeur de ce parc extrêmement menacé, que le parc des Virunga, et dont les profits, en effet, vont, j'allais dire, malheureusement, parce qu'on a dû le faire, pour les veuves de ces gardes qui ont perdu la vie en défendant ce parc. Malheureusement, depuis que ce livre a été produit, il y a eu d'autres fatalités. On continue à appuyer l'institut en charge de ce parc, et malheureusement, les veuves de ces gardes qui ont perdu la vie. C'est vraiment, je pense, aussi une autre leçon de vie de voir comme les gens peuvent être à ce point dévoués à la cause de leur pays, de leur environnement, de leur culture. Le parc national des Virunga, c'est ça avant tout.
Oui, on a l'impression en vous entendant qu'il faut parfois sortir de sa zone de confort pour vivre plus fort. Il faut un peu se mettre en danger. C'est ce que vous ressentez aussi, Berthe ?
Ah, complètement. Moi, je suis partie du principe, je rêve ma vie et je vis mon rêve. Et donc, c'est vrai que ça fait du. Il faut se donner des challenges, en fait. Et je trouve que ce que Marc a fait, bon, en lisant son parcours, c'est juste impressionnant. Et il a réalisé quelque part son rêve, mais il y a cru à chaque fois. Et je pense que tout est possible à partir du moment où on y croit. Et on se donne les moyens. Et moi, c'est ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie. C'est-à-dire que je suis partie du principe que voilà, j'aime chanter, j'aime être sur scène, etc. Donc, je vais me lancer sans savoir où j'allais atterrir. Mais en fait, il faut juste se laisser surprendre par la vie parce qu'il y a souvent de très belles surprises.
Oui, oui. Votre parcours est surprenant aussi parce que, comme Maria Mallard, comme Pascal Claude, vous avez fait des études de journalisme, de communication sociale,
oui.
À l'IEX.
À l'IEX, effectivement.
Et vous vous retrouvez performeur, chanteuse, comédienne.
Ben, c'est ce que je dis. La vie est surprenante et on ne sait jamais ce qui va arriver. Il faut le prendre à bras le corps et surtout n'avoir aucun regret. Aucun regret. Parce qu'on ne vit qu'une fois.
Oui. Ce que vous ne savez pas, Adrien, c'est que Mariam et moi, nous préparons un duo.
C'est vrai ? Ah bon ?
Ah ben oui.
Après le budget, Scott
et Berthe,
voilà, le duo Pascal Claude et Maria Mallard, d'accord. Oui. Une émission en duo ou un disque ?
Un disque.
Ah d'accord,
ah, voilà.
très
on
bien.
On va commencer par une chanson. Hein.
D'accord.
Ça travaille, ça travaille.
On a été très impressionnés d'ailleurs pendant ce voyage au Cameroun par les chants, que ce soit dans les tribus de Pygmées ou bien dans le Grand Nord avec la Fantasia Ngaoundéré. C'était haut en couleur. Pascal Claude.
Oui, et c'est vrai aussi, il faut le dire, que tout ça avait été conçu et réservé uniquement pour nous qui avions la chance d'être là-bas sur place. Ça, c'était très, très impressionnant. Vous vous souvenez qu'on est sorti du train, il y avait des couleurs et au moins... Je sais pas,
50 personnes, je ne sais pas,
plus.
J'aurais
dit 200 personnes qui étaient sur le quai pour nous attendre et pour nous accueillir.
Je n'ai jamais serré autant de mains en 5 minutes, vous non plus d'ailleurs.
C'est pareil,
que vous.
C'est pareil.
Des images d'ailleurs à revoir sur lapremière.be ou sur la page Facebook de cette émission Les Belges du bout du monde. Alors avant de se quitter, on va jeter un petit coup d'œil sur les perspectives, Pascal Claude. De quoi sera fait l'avenir du Cameroun ?
Eh bien, 2018 sera une année clé pour le Cameroun. 2018, année d'élection présidentielle, avec une question. Paul Biya va-t-il se présenter une nouvelle fois pour un nouveau mandat ? Figurez-vous que la question lui a été posée récemment par un journaliste français. Sa réponse, la voici. C'est clair que les élections camerounaises de 2018 sont certaines et encore lointaines. Nous avons le temps de réfléchir et le moment venu, les Camerounais, les amis français, tout le monde verront si je suis candidat ou si je prends ma retraite. Je vous remercie. Autrement dit, pas de décision à ce stade. N'empêche qu'en 2018, il aura plus de 85 ans et que s'il s'impose en 2018 et qu'il va jusqu'à la fin de son mandat, il aura alors 92 ans.
C'est un peu le Charles Aznavour de la politique, si on veut. Oui,
oui, mais c'est nettement moins chantant, si je peux le dire. En tout cas, tout ça me fait... Pensez à ce que disait l'écrivain congolais Alain Mabankou il y a quelques jours sur la première, au Congo-Brazzaville, pays voisin du Cameroun. Là aussi, le président s'accroche au pouvoir et Alain Mabankou aime répéter « Ils ne doivent pas oublier
que tout a un début et tout a une fin. Et il estime que la culture de la postérité peut être ce qui manque en Afrique. Autrement dit, les dirigeants devraient penser à laisser une belle trace dans les livres d'histoire plutôt qu'à attendre d'être éjectés par le peuple essoufflé et en demande d'un nouveau souffle. J'ajoute encore pour terminer qu'en attendant, dans un futur tout proche, c'est le combat contre Boko Haram, bien sûr, qui va rester une priorité.
Oui, et c'est vrai qu'on souhaite la paix au Cameroun, un pays qui n'a jamais vraiment connu la guerre et qui chemine très, très doucement, vous l'avez dit, vers la démocratie. Un pays dans lequel vous êtes depuis 2012, de retour, Marc Languy. Vous imaginez continuer votre périple là-bas ou bien vous allez explorer peut-être un 19e pays d'Afrique ?
Alors, disons, mon objectif pour l'instant, c'est de rester encore, je dirais, 3 ou 4 ans. D'un point de vue professionnel et d'un point de vue familial, c'est ce qui correspond à l'idéal pour moi. Je pense qu'au bout de 7 ans d'affilée, 10 ans au total au Cameroun, il sera temps pour moi de tourner la page, trouver de nouveaux horizons, apporter ce que je peux apporter à un autre pays. Donc, je suis très heureux au Cameroun. À mon avis, je serai très heureux aussi dans un des pays voisins ou peut-être en Afrique de l'Ouest, que je connais assez mal. Je connais assez bien l'Afrique centrale, de l'Est et australe. Donc, peut-être on va se retrouver au Sénégal ou ailleurs dans quelques années.
Eh bien, on vous rappellera à l'occasion dans une dizaine d'années pour les Belges du bout du monde sur la première. En attendant, je vous remercie d'avoir participé à cette émission réalisée par Paul Michel et alimentée aujourd'hui par Pascal Claude. Merci Pascal.
Merci Adrien.
Merci Maria Malard.
Merci Adrien.
Pour vos chroniques d'impact journalisme. Et puis, je souhaite bonne continuation à Berthe. Des projets, un album, une tournée?
Oui, je rentre en studio pour un album que je prépare tout doucement et toujours mon projet au théâtre et sur la web télévision qui s'appelle Belle Africa.
Belle Africa, merci
voilà.
Berthe.
Merci beaucoup à vous.
Et puis je vous laisse voilà, terminer l'émission et saluer celui qui a pris votre place dans votre pays natal, Marc Languy.
Eh bien Marc, merci beaucoup et beaucoup de succès dans vos projets.
Merci beaucoup Berthe et je te propose qu'on mange un bon poulet DG à la Camerounaise lors de ma prochaine visite à Bruxelles.
Avec grand plaisir.
La semaine prochaine, nous serons au Vietnam avec Bernard Kervin, constructeur de vélos en bambou. Et à propos de vélos, rendez-vous cet après-midi à 17h50 sur la Une Télé pour le Ravel du Bout du Monde au Mexique. Dans une poignée de secondes sur la première, le journal de 10h.
La première, podcast.